Bienvenue sur
Racisme.
Des mots
sur les mots. Un podcast créé par la section lilloise de la LDH. Chaque année en France, au moins 1 million de personnes sont victimes de racisme. Seuls 3% portent plainte. Ainsi, la LDH a souhaité redonner la parole aux concernés. Pour ce faire, nous avons parcouru le Nord afin de recueillir des témoignages anonymes et fait appel à des sociologues, des historiens, des juristes et des militants dans le but d'inscrire le vécu individuel dans une réalité collective. Aujourd'hui, nous présentons l'épisode « Islamophobie, la notion dérange, la réalité blesse ». Ce terme a beau être controversé, il illustre les particularités de ce racisme croissant dans toutes les sphères de la société. Julien Talpin, sociologue-chercheur au CNRS et co-auteur du livre « La France, tu l'aimes et tu la quittes » sur la diaspora musulmane française, nous en parle pour introduire l'épisode.
Alors on a une difficulté, j'ai envie de dire presque historique, à la reconnaissance de ce terme, de cette notion, de ce concept d'islamophobie, tout particulièrement en France, alors que c'est une notion qui est reconnue à l'échelle internationale. En France, on a du mal avec ce terme-là, de par la mobilisation de certains intellectuels, en particulier responsables politiques, qui considèrent que ce serait une notion plus militante que scientifique, à rebours justement de sa généalogie assez précise que je viens d'évoquer, quand bien même le terme en fait est plus ancien. Hein, le terme d'islamophobie est employé par des orientalistes au début du XXe siècle. Alors peut-être de façon un peu contre-intuitive, mais l'islamophobie, ce n'est pas la peur de l'islam. Comme l'homophobie, ce n'est pas ou pas seulement la peur des homosexuels, c'est l'ensemble des formes de discrimination, de stigmatisation, de violence qui ciblent un groupe qu'on essentialise, en l'occurrence ici celui des musulmans. Et toute la difficulté que ce défaut de reconnaissance dans le débat public, mais aussi par les institutions publiques en France, c'est que quand on qualifie mal un phénomène, c'est dur derrière de l'objectiver, le quantifier et derrière lutter contre.
Alors moi, j'y raconte une agression subie en 2016. Donc j'étais enceinte à terme. Et donc je vais faire les courses un dimanche, parce que c'est les périodes de Noël et que les dimanches, forcément, les magasins sont ouverts. Et donc je repars du centre commercial, hein, Auchan, précise. Et puis j'entends en fait derrière moi deux personnes en fait qui imitent un groin de cochon en fait. Voilà. Donc à plusieurs reprises, donc je me retourne et je leur demande est-ce qu'il y a un problème. Donc j'entends sale arabe et sale bougnoule. Donc là je suis saisie en fait. Déjà je suis saisie parce que tu reçois ça gratuitement. Donc tu demandes rien à personne, tu fais tes courses comme tout le monde. Et donc je leur demande, je leur dis, écoutez, s'il y a un problème, on va au commissariat et puis je dépose plainte et puis on règle ça là-bas. Et donc la dame, elle me répond, comme si on se connaissait depuis des années, et elle me dit, mais vas-y, tu peux aller au commissariat, qu'est-ce qui va te croire? Qui va croire tes propos? Ta plainte, elle sera même pas, ça va être classé sans suite. En fait, elle était tellement sûre d'elle. Donc c'est tout, donc je regarde autour de moi. Donc en fait, les gens participent donc, à ce qui se passe, à l'intervention, mais personne ne réagit. Et donc, je sors du magasin, donc je vais au commissariat. Et donc, en fait, l'agent me dit, oui, madame, vous savez, ça, c'est un fait isolé, on ne peut rien faire. Je ne peux même pas vous prendre votre plainte, en fait, on prend juste une main courante. Bah, j'écoute, en fait, donc je prends juste une main courante et puis je rentre chez moi. Il n'y a jamais eu de rappel, alors qu'ils peuvent, en fait, intervenir, demander les caméras, savoir demander aux commerçants dans la galerie. Mais non, ça ne s'est pas fait du tout. Après coup, j'ai pleuré quand même. Donc, il y avait les hormones aussi de grossesse qui font que. Mais c'est vrai que les gens, en fait, ils sont tes complices, en fait, à côté. Et c'est ça, la dangerosité, aujourd'hui. D'accepter le racisme, d'accepter qu'une femme, en plus, de confession musulmane et voilée, se fasse agresser, c'est tout. C'est pas notre problème, en fait. On ne se sent pas concerné du tout.
Floriane Lecoeur, membre du service juridique de la LDH, nous présente donc les actions en justice que nous menons.
Je suis Floriane Lecoeur, juriste au service juridique de la Ligue des droits de l'homme. Notre association a été saisie au printemps d'une situation qui révèle comment l'usage dévoyé de la laïcité peut cacher des discriminations. Une auto-école de la ville de Dreux proscrit dans son règlement intérieur le port ostentatoire de tout signe distinctif ou vêtement d'ordre religieux ou politique à l'intérieur de son centre. Par conséquent, cette entreprise commerciale refuse de prendre en formation les clientes porteuses d'un voile, arguant d'un principe de neutralité mis en place à la suite d'incidents survenus par le passé. Un tel refus fut ainsi opposé en mi-2025 à une jeune femme, dont la poursuite de la formation fut conditionnée au retrait de son voile, ce qu'elle refusa, entraînant l'annulation de sa formation. La LDH s'est mobilisée aux côtés de cette victime en contestant une utilisation dévoyée de la laïcité du principe de neutralité qui cachait en réalité une discrimination à raison de la religion. La LDH a donc porté plainte le 13 octobre 2025 aux côtés de la victime pour discrimination caractérisée par le refus de fourniture d'un bien ou d'un service à raison de l'appartenance à une religion.
Depuis que je suis arrivée dans cette ville, c'est presque quotidien, les regards, des fois c'est pas forcément dit, mais encore récemment on marchait avec des amis et un monsieur qui courait nous a dit « Ah, c'est déjà Halloween !» Donc même ça, on peut pas porter plainte en fait, c'est pas encore... Voilà, on comprend très bien les sous-entendus, parce qu'on est voilé, qu'on n'est pas habillé comme lui ou comme lui, l'image qu'il se fait de la femme, bah, du coup voilà, il s'est moqué en fait, il s'est moqué clairement. Mais on n'a pas répondu, voilà.
Mais ces témoignages ne sont pas exceptionnels. Emmanuel Jourdan-Chartier, co-secrétaire général de la LDH, nous fait état de l'ampleur de l'islamophobie en France.
145 actes islamophobes ont été recensés entre janvier et mai 2025 par le ministère de l'Intérieur. C'est 3 fois plus que sur la même période en 2024, comme le soulignent alors largement les médias. Mais en fait, ça n'est pas du tout révélateur de l'ampleur de l'islamophobie. Il y a plus de 4 millions de musulmans en France et selon une étude de l'IFOP en septembre 2025, les 2/3 d'entre eux déclarent avoir fait l'objet de comportements haineux au cours des 5 dernières années. Mais l'immense majorité des victimes ne portent pas plainte parce que les faits sont hélas extrêmement banalisés et que les victimes n'ont pas confiance dans la police et dans la justice. Les rares plaintes, d'ailleurs, sont au mieux classées sans suite. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement quand un ministre s'écrie « à bas le voile ». Ce climat irrespirable de racisme contre celles et ceux perçus comme musulmans pousse de plus en plus certains à s'autoriser la violence, parfois la plus extrême, comme en atteste le meurtre d'Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard.
On a eu aussi une histoire de racisme à la condition publique. On fait des réunions à la condition publique et il y a une dame avec son mari, deux personnes assez âgées. Et on était un groupe de femmes voilées et le monsieur y est rentré et la dame qui faisait la réunion, elle lui a dit « allez vous asseoir là-bas, monsieur ». Il nous a regardé, il a dit « non, je ne vais pas là-bas, moi. Je ne m'assois pas à côté de ça, en parlant de nous. »
On est marocain-hollandais. Et même une fois, ma mère et moi, on était en voiture, on allait chez ma tante. La police, elle nous a arrêtés, comme ça. Alors que ma mère, elle avait ses papiers, elle avait respecté tout. Mais je crois que c'est par rapport à son voile, parce qu'ils nous ont mal regardés. Et derrière, dans la voiture du coup, il y avait ma tante aussi qui portait le voile, et la police nous regardait mal. On avait fait quelque chose de mal alors qu'on n'avait rien fait. On était juste tranquille sur la route pour aller chez ma tante. Et du coup, ils ont arrêté ma mère, ils m'ont mal parlé. Ils m'ont dit « ouais, vos papiers, il n'y a même pas de s'il vous plaît ». Ils continuaient encore à dire « ouais, la carte grise, est-ce qu'elle est valable ?» Nanani, nanana, bref. Les papiers. Après, ma mère, elle avait une carte de handicapée dans son côté. Et ils ont dit que... Genre, elle appartenait à qui, la carte ? Ma mère, elle a dit qu'elle appartenait à ma tante. Ma tante, elle était derrière. Et ils ont dit, tant que vous vous stationnez pas, vous devez l'enlever. Je n'ai pas compris. Et en fait, c'est juste pour embêter les gens. Parce qu'il y avait plein d'autres voitures qui sont passées. Il y avait un monsieur qui est passé, ils n'ont rien dit, ils l'ont laissé passer. Comme par hasard, quand c'est nous, du coup, moi je pense que c'est pour le port du voile. Comme par hasard, quand c'est nous, ils nous ont arrêtés. J'ai dit à ma mère que ça se faisait pas, comment ils lui parlaient. Ma mère a été gentille, calme. On dirait qu'on a fait quelque chose de grave alors qu'on était tranquille en train de rouler. Elle s'est sentie un peu différente des autres, genre comme elle porte le voile et qu'elle se sent mal regardée. Elle me dit des fois que... Genre, si je porte le voile un jour, que je devrais faire attention par rapport au regard des autres. Ouais, parce qu'elle a peur qu'on m'arrache mon voile et tout ça. Ça m'inquiète pour le pays, parce que si tout le monde fait... Enfin, ouais, si tout le monde te regarde mal quand tu passes, j'ai plus de l'inquiétude pour eux que pour moi.
La laïcité protège l'expression des appartenances religieuses. Elle crée un espace commun permettant de vivre ensemble. Elle permet la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, mais aussi elle permet l'affirmation de la diversité des croyances, des cultures, des identités. La neutralité de l'État est uniquement de l'État, qui doit se tenir à égale distance de toutes les religions et églises, permet l'égalité. La loi de 1905 permettait le port de la soutane, tout comme elle permet le port du voile. Les restrictions introduites, en particulier celles de la loi de 2004, pourraient à ce titre être réinterrogées. D'abord, la liberté ne s'impose jamais par la force, et réglementer les costumes, voiles, burkini, abaya, est une pratique dictatoriale. Surtout, on voit bien que ces débats ne portent que sur l'islam, se fondent sur une instrumentalisation de la laïcité comme un outil d'exclusion islamophobe.
Donc le voile, on sait pourquoi on le porte, hein, dans sa religion, dans son cheminement. Et on sait dans quel contexte aussi on le porte, dans un contexte où il y a une montée de la haine envers l'islam, envers ses pratiquants, donc une montée qui est orchestrée, bien sûr, politiquement et médiatiquement. Et puis, le musulman est pointé du doigt et responsable de tous les maux, donc que ce soit de la disparition de la farine dans les magasins, au déficit public, puisque bien sûr le musulman vole le travail des Français, mais en même temps ne travaille pas, on n'est pas une contradiction près. Et puis, il est aussi responsable des églises qui se vident. Là, je me souviens, une fois, je suis allée chercher une baguette, puisque je suis attachée à ma culture, à mes traditions. Et donc, le vendeur était très sympathique. Bonjour madame, passez une bonne journée. Et je suis sortie, j'étais trop contente, et je me suis dit, il est trop sympa, malgré mon voile. Et après, je me suis dit, mais il ne faut pas penser comme ça, en fait. Avant, c'était une situation courante d'avoir des gens sympathiques envers moi-même. Alors, je ne recherche pas la sympathie, mais je recherche le respect. Et ce respect, je ne l'ai plus. Et en fait, on est tellement habitué à être mal regardé, à être toisé, à être considéré comme des Français de seconde zone, du fait du voile, que voilà, un excès de gentillesse, et waouh, j'étais contente.
Bah franchement, c'est ce que les filles disaient tout à l'heure, on est fatigué quoi. On fait avec hein, maintenant. On peut pas changer les gens, je trouve que les médias ils ont une grosse part de responsabilité. Mon fils, donc là il a changé d'école, là j'habite Landrecies. Il a eu énormément de mal à s'adapter parce qu'il se faisait traiter de sale arabe. Rentre dans ton pays, il s'est fait accuser de racisme anti-blanc. Moi, c'est plus pour mon fils, en fait, Bon, moi, voilà, j'ai l'habitude. Hein. Mais c'est pour mon fils parce qu'il est jeune et j'ai pas envie qu'on lui bousille sa vie, en fait, par rapport à ça. Moi, j'ai toujours vécu avec ce racisme anti-arabe aussi. Les bougnoules, rentrer dans notre pays, les gens qui passent en voiture et qui insultent sale bougnoule, ça c'est très typique. Voilà.
Comme le souligne le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, le racisme a un impact sur la santé mentale et physique. D'abord parce qu'on n'est pas soigné de la même manière selon son origine, mais aussi parce qu'être victime de racisme porte atteinte à la santé. C'est ce qu'on appelle la charge raciale, un effort mental constant pour s'adapter au racisme, mais aussi le stress racial avec des troubles anxieux, des syndromes post-traumatiques, de dépression, d'isolement. Il y a eu une étude de l'INSEE en 2024 qui atteste que 56% des victimes de discrimination ressentent un impact psychologique plutôt important ou très important.
On revient vers Julien Talpin pour conclure avec une perspective sociétale sur ce phénomène et envisager des solutions.
Alors que faire ? On est quand même, me semble-t-il, depuis 10 ans, dans une période un peu de reflux. L'année 2015 a été une année importante et un tournant de ce point de vue-là. Et un des effets, ça a été pour partie en fait le démantèlement d'un certain nombre de politiques publiques antidiscriminatoires. Et on voit très bien en fait combien des crédits ont été réorientés. Notamment, on est passé de la lutte contre les discriminations parfois à la promotion des valeurs de la République, la lutte contre la radicalisation, la promotion de la laïcité, ce qui sont probablement des causes nécessaires à porter, mais qui se sont faites un peu au détriment en fait, de la lutte contre les discriminations. On a affaibli en fait, tout un ensemble de politiques publiques. Malgré tout, des choses continuent à se faire. D'un côté, du côté de l'action publique, je pense que les institutions ont un rôle fondamental à jouer, à la fois par le discours qu'elles portent. Il y a une dimension symbolique à la question du racisme et des discriminations, de rappeler que malgré les discriminations subies, etc., vous faites tous et toutes partie de la nation. Et ce discours-là, on l'entend peut-être assez peu, en réalité, de la part des responsables politiques. Et il y a une attente symbolique au fond d'inclusion dans la communauté nationale qui est très forte, et puis derrière que cela se décline aussi d'un point de vue très pratique en termes de dispositifs, de formation par exemple, et d'éducation populaire pour accroître la conscientisation de la question des discriminations. Et donc les institutions ont évidemment un rôle fondamental à jouer. Là où elles ont aussi potentiellement un rôle à jouer, c'est sur la connaissance et la reconnaissance du phénomène, pour démontrer l'ampleur du problème, affiner, approfondir les connaissances sur l'état des problèmes, et puis auto-organisation des premiers concernés. Là aussi, on est quand même plutôt dans une période de reflux. Moi, j'ai beaucoup travaillé en fait sur les formes de répression ou de disqualification en fait des mobilisations antiracistes depuis une dizaine d'années. Alors tout particulièrement sur la question de l'islamophobie, au fond, hein. Il y a en particulier la loi séparatisme de 2021 constitue un marqueur important à cet égard. C'est-à-dire qu'on a quand même dissous les principales organisations qui luttaient contre l'islamophobie. À côté de ça, on attaque, disqualifie les associations ou les militants qui œuvrent sur ces questions-là. Mais on a eu encore récemment un rapport sur l'antrisme et le frérisme qui gangrènerait la société française, souvent avec assez peu de bases factuelles et empiriques qui viendraient l'attester. Malgré tout, c'est là qu'il est urgent de changer de regard, je crois, sur ces acteurs-là, et de changer de regard à partir de véritablement ce qu'elles font, en fait. Il y a une sorte de soupçon permanent, alors que quand on regarde les revendications qui sont portées, il y a d'abord une attente d'égalité, au fond. Que la République soit à la hauteur de ses idéaux, et donc reconnaître le rôle démocratique, au fond, des acteurs de la lutte contre les discriminations et de l'antiracisme, de dire que l'égalité doit être une priorité nationale, et que c'est d'abord en soutenant, et en soutenant y compris financièrement, en fait, hein, je pense qu'il y a un enjeu de moyens qui est aussi important en direction de ces acteurs-là, qu'on pourra continuer à faire reconnaître la légitimité de la cause et puis permettre que, très concrètement, les discriminations diminuent. Un dernier point en matière de lutte contre les discriminations, il est mieux placé en fait pour favoriser l'accès aux droits. Ce sont les associations de quartiers antiracistes qui ont des relations de confiance avec les habitants, qui sont prêts à se livrer derrière sur des choses souvent intimes, violentes, hein, que sont ces discriminations. Et donc on a besoin d'approfondir, je crois, le maillage en fait qui va relier les victimes de discrimination aux institutions via ce travail d'accès aux droits. Et là aussi, on a besoin de la mobilisation des premiers et des premières concernées. Et donc vraiment, changeons de regard. Et voyons dans leur mobilisation une chance plutôt qu'une menace pour la République.
Merci beaucoup pour votre écoute. Ce projet est soutenu par la DILCRA et réalisé en partenariat avec Radio Campus, Radio Moulin, Mit FM et Pastel FM. Luttons ensemble contre l'invisibilisation et la banalisation des racismes.